Vous écoutez Productif au quotidien, le podcast où on parle organisation, productivité et gestion du temps. Je m'appelle Mathieu Desroches et sur ce podcast, je vous partage les secrets de productivité des gens hautement performants ainsi que des stratégies concrètes pour mieux vous organiser et maximiser votre ressource la plus précieuse, le temps. C'est le rendez-vous des entrepreneurs professionnels et leaders ambitieux qui souhaitent faire une différence dans la vie et multiplier leur impact grâce à une meilleure productivité. Hello, hello! Bienvenue sur Productif au quotidien, le podcast pour les entrepreneurs et les professionnels qui aspirent à être mieux organisés, plus productifs, atteindre leurs objectifs plus facilement sans s'épuiser. Je m'appelle Mathieu Desroches et c'est un plaisir de vous accueillir pour la 218e fois déjà. Donc, on est à 218 épisodes ici sur le podcast. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de 7 principes de productivité puissants que j'applique à la lettre de façon rigoureuse sans ne jamais y déroger. Bon, je mets quand même une parenthèse, ça m'arrive d'y déroger une fois de temps en temps parce que je suis humain, mais c'est vraiment des principes clés que j'essaie de suivre le plus possible parce qu'ils ont un impact exceptionnel dans ma vie, dans ma productivité, dans ma capacité d'être efficace et d'avancer en direction de mes objectifs. Donc, je vais vous partager tout ça dans l'épisode d'aujourd'hui. Mais juste avant, je viens de créer une nouvelle ressource qui est disponible. Je vous ai beaucoup parlé dans les derniers épisodes de ma toute nouvelle formation sur la gestion d'énergie. Donc, un cours qui s'appelle « Maximise ton énergie » et ça vient compléter ma trilogie de formation où est-ce que, dans le fond, pour être productif à 100%, il faut être bien organisé, bien gérer son temps et avoir une énergie qui est maximale. Et bien, j'ai maintenant 3 cours là-dessus. Un cours sur l'organisation qui s'appelle « Mieux s'organiser pour être productif », un cours sur la gestion de temps qui s'appelle « Maîtriser et optimiser son temps » et finalement, la toute dernière formation « Maximise ton énergie ». Toutefois, lorsque j'ai sorti la formation, j'ai reçu plusieurs messages de personnes, des auditeurs du podcast, des abonnés de mon infolettre qui disait « Mathieu, le timing était juste pas bon quand tu as parlé de ta formation. J'étais trop occupé, j'ai pas pu vraiment aller regarder, j'ai pas pu profiter de tous les conseils que tu avais envoyés par courriel. » Donc, ce que je viens de faire, c'est que j'ai créé un extrait gratuit de la formation « Maximise ton énergie » où est-ce que je vous donne généreusement 3 vidéos complètes du programme. Donc, sachez que ce cours-là est immense. On parle de plus de 20 heures de contenu. Il y a tellement de valeurs, tellement de choses qu'on couvre là-dedans. Mais j'ai sélectionné 3 vidéos que je considère être vraiment des indispensables pour vous. Et on parle d'à peu près 1 heure de contenu que je vous donne, là, 3 vidéos de 20 minutes chacune, dans lesquelles vous allez apprendre comment mieux gérer votre énergie. Donc, ça vous tente d'avoir un petit aperçu de la formation, mais surtout de découvrir plein de conseils pratiques et concrets qui vont vous aider. Bien, je vous invite tout de suite à vous inscrire pour recevoir cet extrait gratuit. Le lien, c'est mathieudesroches.com/extrait-énergie. Je vous le mets aussi dans les notes du podcast. Et puis, j'ai vraiment hâte d'avoir votre retour sur ce que vous avez pensé de ces 3 vidéos complètes que je vous offre et qui font partie du programme complet « Maximise ton énergie ». Est-ce que tu es prêt maintenant à découvrir mes 7 principes de productivité que j'applique à la lettre sans ne jamais y déroger? Alors, numéro 1, d'ailleurs, je vais vous présenter les principes un peu comme sous forme d'une règle, tu sais, une genre de règle de vie. Des fois, on a ça, là, on se dit, mais en anglais, mes rules of life, mes principes de vie. Eh bien, moi, c'est comme, je peux vous dire, mes règles, mes grands principes généraux en lien avec ma productivité. Numéro 1, mon premier principe, toujours chercher à demeurer focalisé dans ma zone d'impact et éviter de me disperser. Là, on parle vraiment d'un principe là, fondamental de productivité. 1. Savoir c'est quoi ta zone d'impact. Et là, on retourne loin dans les archives du podcast où est-ce que j'avais parlé de ce sujet-là dans l'épisode 3. Ta zone d'impact, c'est aussi ce qu'on appelle ta zone de génie. C'est-à-dire, c'est ton cœur de métier. C'est vraiment les aptitudes, les tâches pour lesquelles tu es qualifié, la raison pour laquelle on t'a embauché si tu es salarié ou si tu es entrepreneur, ben, ta raison d'être en tant qu'entrepreneur. Par exemple, si tu es travailleur autonome en tant que photographe ou en tant que graphiste, eh bien, ta raison d'être, ta zone d'impact, c'est de te concentrer sur, par exemple, les prestations que tu offres à tes clients, sur le fait de faire de la photographie, de faire des designs. Pour moi, ma zone d'impact, qu'est-ce que c'est? Ben, je suis formateur, podcaster, tout ça. Donc, ma zone d'impact, c'est tout ce qui est créatif. Donc, de pouvoir partager mon savoir, apprendre aussi de nouvelles connaissances pour pouvoir par la suite enseigner à mon audience. Donc, dans ma zone d'impact, je considère toutes les tâches qui sont reliées à ça, que ce soit d'écrire mon infolettre hebdomadaire, d'enregistrer les podcasts, de créer des formations en ligne. Et pour moi, il y a quand même aussi une autre activité d'impact qui serait, disons, les stratégies marketing pour pouvoir aussi faire connaître ce que je fais. Mais pour moi, c'est ça, c'est ma zone d'impact et on a tous une zone d'impact ou une zone de génie là où tu excelles et c'est là-dessus qu'il faut que tu te focalises si tu veux avoir un impact maximal. D'ailleurs, moi, c'est pour ça qu'au lieu d'appeler ça zone de génie, j'ai appelé ça zone d'impact parce que j'associe vraiment le fait que quand on se concentre sur ces activités-là qui sont les plus bénéfiques dans le cadre de notre travail, eh bien, parce qu'on a plus d'impact autour de nous. Et l'impact va se mesurer de différentes façons. Pour les entrepreneurs, ça va se mesurer des fois en termes de clients satisfaits, en termes de chiffre d'affaires, en termes d'avancement professionnel. Si tu es salarié, donc alors que je me concentre là-dessus, bien, tu vois, je gravis les échelons, je surpasse les attentes qui sont placées envers moi, j'atteins tous mes objectifs. Des fois aussi, c'est un impact positif dans ton équipe, dans ton département. Bref, il faut que chacun de nous, on identifie c'est quoi nos activités d'impact puis qu'on se concentre là-dessus. Par exemple, un manager ou un chef d'équipe, eh bien souvent, son rôle, c'est d'assurer une coordination de tous les services à l'intérieur du département, assurer d'avoir une bonne culture d'équipe, un bel esprit d'équipe pour que son personnel reste motivé, répondre aux besoins des membres de son équipe, optimiser les opérations. Et le manager, pour être efficace, doit demeurer dans sa zone d'impact. Le problème, c'est que la tentation est énorme pour tous et chacun de nous disperser. C'est-à-dire de dévier petit à petit et subtilement hors de notre zone d'impact. Et ça se fait subtilement, comme je mentionnais, souvent quand on nous propose des choses. Mathieu, veux-tu participer à ce comité? Veux-tu prendre maintenant cette nouvelle responsabilité? Veux-tu accepter ce nouveau mandat? Et petit à petit, des fois, on dit oui à ces choses-là, mais ça fait en sorte qu'on ajoute à notre charge de travail et on est plus dispersé puis moins focalisé dans notre zone d'impact, notre zone de génie. Alors moi, personnellement, je ne suis pas parfait encore une fois, mais j'essaie tout le temps de garder en tête, Mathieu, c'est quoi ta zone d'impact? Quelles sont les activités payantes qui ont un maximum d'impact sur les gens que tu veux servir et comment est-ce que tu peux le plus possible être focalisé là-dessus à chaque semaine? Tu sais, pour moi, une semaine vraiment productive, c'est une semaine où est-ce que j'ai réussi à étudier dans mon domaine d'expertise, toujours pour me perfectionner, où est-ce que j'ai créé des contenus, des podcasts, des formations, des vidéos, où est-ce que j'ai peut-être même accompagné des clients, et aussi, ben, pourquoi pas aussi travailler sur des stratégies pour promouvoir mon entreprise et gagner ma vie de cette façon-là. Par contre, si je ne fais pas attention, puis que je commence à me disperser dans plein d'autres trucs, et que là, j'ai de moins en moins de temps à dédier à mon expertise, à apprendre, à la formation continue, à créer des contenus, moins de temps même pour servir mes clients, il y a un problème et je suis moins efficace. Parce que des fois, quand on prend trop de choses, qu'est-ce qui arrive? C'est que finalement, on est très occupé, on travaille fort, mais on est dispersé. Donc, on travaille fort pour moins d'impact. Alors que si tu te concentres vraiment sur ta zone de génie, sur les activités payantes, eh bien, des fois, tu travailles moins, mais tu as plus de résultats. Alors moi, c'est vraiment un principe de vie de tout le temps veiller à demeurer focalisé le plus possible dans ma zone d'impact. D'ailleurs, si tu aimerais que je puisse t'accompagner pour t'aider à définir précisément c'est quoi ta zone d'impact, eh bien, on fait tout ça dans ma formation « Maîtriser et optimiser son temps ». Tu peux aller jeter un coup d'œil, je te mets le lien dans les notes du podcast. Mon deuxième principe de productivité puissant que j'applique à la lettre sans ne jamais y déroger, c'est de toujours réfléchir deux fois avant de dire oui. Et ça va un peu dans le même sens que le principe numéro un, c'est-à-dire que si je veux demeurer focalisé le plus possible dans ma zone d'impact, il faut que je fasse très attention aux opportunités et aux choses auxquelles je vais dire oui. Alors, j'ai fait tellement d'erreurs dans ma vie, si je pouvais vous raconter toutes les anecdotes, les fois où je me suis surchargé, où j'ai dit oui à quelque chose, mais qu'après ça, je l'ai regretté parce que j'étais comme, pourquoi j'ai été me mettre là-dedans? Ça m'est arrivé dans le passé des fois, de siéger sur des comités, alors qu'après 3 mois de recul, je suis comme, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi j'ai été dire oui à ça? Puis là, après ça, tu essaies de trouver une façon de t'en sortir, mais c'est pas toujours évident. Ou des fois, les erreurs classiques, c'est que tu as été dire oui, hein, tu as voulu aider ton équipe, aider ton patron, aider les gens autour de toi, tout ça. Tu as été dire oui, je vais m'en occuper, je vais le prendre le projet, faites-moi confiance, ça va bien aller. mais tu t'es retrouvé que tu as dit oui à trop de choses. Donc, tu t'es toi-même tiré une balle dans le pied parce que tu en as juste trop pris. Puis là, tu arrives que tu es confronté avec des dates d'échéance qui sont toutes en même temps. Ce que ça fait, c'est que ça augmente ton stress, une énorme pression. Et là, tu n'as plus de plaisir à travailler dans ce contexte-là quand tu es stressé, tu es tellement sous pression. Moi, je parle de plaisir à travailler quand je suis obligé de travailler, disons, parce que j'ai tellement de dates d'échéance à livrer en même temps que là, j'ai pas le choix, disons, de faire des heures supplémentaires, de travailler le week-end. Pour moi, je parle de plaisir de travailler. C'est pourquoi j'essaie toujours de réfléchir deux fois avant de dire oui. Puis d'ailleurs, j'ai fait un podcast que je vais vous mettre le lien. Je ne me souviens plus par cœur du numéro, mais je vais vous mettre le lien vers cet épisode-là ici dans les notes de celui-ci. Le podcast s'appelait « 6 choses auxquelles tu devrais toujours dire non ». Alors moi, là, dans l'optique où je cherche à appliquer ce principe-là, j'évalue toujours, tu sais, dans ma tête, là, avant de dire oui à quelque chose, les critères dont je partageais dans l'autre podcast, les genres de 6 critères. Par exemple, un de ces critères-là, c'est est-ce que la chose qu'on me demande de faire en ce moment est alignée avec ma zone d'impact? Et si la réponse est oui, ben là, OK, je vais peut-être aller plus loin dans ma réflexion en me disant, OK, bon, ben si ça fait partie de ma zone d'impact, c'est peut-être une bonne opportunité et ça vaut peut-être le coup que je puisse dire oui à cette chose-là. À l'inverse, si la réponse à ce premier critère, c'est non, c'est vraiment, c'est pas dans ta zone d'impact, c'est pas ta zone où tu excelles, tout ça, ça va te disperser, ben tout de suite, mon réflexe serait peut-être de dire non. Autre chose aussi que je me questionne avant de dire oui, c'est quoi le coût réel en termes de temps et d'énergie que ça va me prendre? Donc, des fois, c'est « Mathieu, veux-tu siéger sur ce comité-là? Peux-tu venir à la réunion de la semaine prochaine? Veux-tu prendre ce projet-là, ce nouveau mandat? Ou si tu es entrepreneur, est-ce que tu veux accepter un nouveau client? » La vraie réflexion, c'est « Qu'est-ce que ça va me coûter en termes de temps et d'énergie? » Parce que des fois, on dit « Oui, c'est beau, je vais le faire. » Puis on est motivé par le défi, par les revenus que ça peut générer si, disons, je prends un nouveau client. Mais de l'autre côté, si le temps, l'énergie que ça va me demander pour faire cette nouvelle chose-là que j'ai acceptée, là aussi, je peux me tirer moi-même une balle dans le pied en faisant ça parce que là, je me suis surchargé tout simplement parce que je n'ai pas été assez vigilant. Alors moi, je vous dis, j'ai assez d'expérience maintenant dans la vie. J'ai tellement connu des fois les périodes d'être débordé, surchargé. J'ai fait toutes les erreurs possibles moi-même dans les débuts de ma carrière. Puis j'en ai vu toutes les couleurs aussi avec les gens que j'accompagne. Développer ce réflexe de réfléchir deux fois avant de dire oui. Attention là au oui précipité. Tu sais, il y a moyen de le dire poliment. J'ai déjà fait un podcast là-dessus d'ailleurs, là, comment dire non sans offenser personne. Là aussi, je vous mets le lien vers cet épisode-là. Mais des fois, c'est juste de dire, ben écoute, c'est bien reçu, laissez-moi juste évaluer la chose, regarder mon agenda et je vous reviens sous peu avec une réponse. Et là, tu sais, tu prends un petit peu de recul, puis tu essaies d'évaluer objectivement et rationnellement, tu sais, la demande. Est-ce que tu as envie de le faire? Est-ce que c'est aligné avec tes objectifs, tes priorités du moment? Est-ce que tu as le temps et l'énergie de le faire? Est-ce que tu as le droit de dire non? Ça, c'est une autre question. T'sais, si tu es salarié, des fois, tu n'as pas vraiment le droit de dire non. Mais ça vaut quand même la peine d'avoir cette réflexion pour te protéger, toi. Parce que si tu n'es pas vigilant, si tu n'as pas de filtre à ce niveau-là, tu risques de te surcharger toi-même. Mon troisième principe de productivité puissant que j'applique à la lettre, c'est de toujours chercher la façon la plus simple d'arriver à mes objectifs. Et là, je m'adresse à tous ceux qui ont une nature perfectionniste dont je fais partie. Je suis un gars très perfectionniste, j'aime que les choses soient bien faites. Mais nous, les perfectionnistes, des fois, le petit bémol de notre façon de travailler, hein, autant l'avantage d'être perfectionniste, c'est quand tu fais quelque chose, tu le fais bien et le résultat final est très satisfaisant. Mais des fois, c'est qu'on se perd dans du détail excessif. On veut tellement que tout soit parfait. Des fois, il y aurait moyen d'arriver au même résultat que qu'on doit atteindre, mais beaucoup plus simplement. Des fois, il y a du superflu qui n'est pas vraiment nécessaire. Ça n'ajoute pas vraiment de valeur ajoutée. On le fait juste parce que on aime, on est perfectionniste, on veut que tout soit beau, tout soit parfait. Et finalement, une tâche qui aurait pu te prendre une journée, te prend la semaine au complet parce que tu es allé trop dans le détail. Et là, je lève la main. C'est une tendance que j'ai d'être perfectionniste. D'où pourquoi, entre autres, quand j'ai sorti ma dernière formation « Maximise ton énergie », ça m'a pris 7 mois à la créer. Je suis très content du résultat final. Ultimement, tout est beau, tout est parfait, la qualité, le site web, les vidéos. Mais clairement que j'aurais pu me challenger sur certaines choses en me disant « Mathieu, est-ce qu'il n'y a pas une façon plus simple et plus rapide de sortir ton cours? Est-ce que tu ne pourrais pas sortir une version bêta, donc une version plus simple, comme en 3 mois, 4 mois? » Puis, un coup que tu as lancé ça, après, tu l'améliores. Tu rajoutes des fonctionnalités, tu refais une deuxième version, ainsi de suite. C'est un exemple que je vous donne tiré de mon travail à moi, mais bien souvent, des fois, on complexifie les choses inutilement. On se perd dans le perfectionnisme, dans les micro-détails. Puis finalement, ben, pour arriver au point B, en partant du point A jusqu'au point B, on rajoute des étapes, on rajoute de la complexité inutile. Puis finalement, ben, les tâches sont juste beaucoup plus longues. Ça nous prend tellement d'énergie, alors qu'il y aurait peut-être une façon plus simple de le faire. Et bien sûr, moi, j'ai de la difficulté à appliquer ce principe-là, mais j'essaie le plus possible de me challenger moi-même, de me remettre en question. Y a-t-il une façon plus simple d'atteindre le même objectif? Et j'en fais même un principe de productivité parce que lorsque je ne suis pas vigilant à ce niveau-là, ben je sais que j'ai tendance à prendre plus de temps que je devrais en prendre. Alors, mon principe numéro 3, c'est toujours chercher la façon la plus simple d'atteindre mes objectifs. Principe numéro 4, toujours capturer mes idées et aussi mes tâches dans un outil externe et ne jamais rien garder dans ma tête. Là aussi, j'ai appris sur le terrain. Fut un temps dans ma vie où je n'avais pas d'outils de prise de notes, d'outils de gestion de tâches. Et comme la majorité des gens, qu'est-ce que je faisais quand j'avais une bonne idée de génie, tout ça? Ben, j'essayais de juste garder les choses dans ma tête ou j'écrivais ça sur un papier. Mais qu'est-ce qui arrive, le papier, quand il n'y a pas de vrai système d'organisation derrière? On le perd, on l'égare et finalement, on ne se souvient plus où est-ce qu'on l'a mis. Okay? Donc, je ne peux pas compter le nombre d'idées que j'ai perdues à l'époque ou des fois le nombre de tâches que j'ai oublié de faire parce que autrefois, j'étais moins rigoureux dans le fait de capturer les choses. Mais aujourd'hui, c'est vraiment un réflexe, un principe de productivité fondamental. Dès que j'ai une idée, dans les secondes qui suivent, je sors mon téléphone ou si je suis devant mon ordinateur, j'ouvre mon compte Evernote et je capture mes idées. Pour ma part, j'en ai parlé dans le podcast précédent, d'ailleurs, épisode 217, je vous parlais de mes outils d'organisation. Moi, c'est Evernote, l'outil que j'utilise. Et j'ai des milliers de notes là-dedans. Je l'ai devant moi là, pendant que je suis en train d'enregistrer. Et j'approche maintenant le 10 000 notes dans mon compte Evernote. Et là-dedans, ben, tu as de tout et n'importe quoi. Des idées, des tâches, des suivis, des choses intéressantes que je ne voulais pas oublier. Mais moi, c'est un principe de vie. Toujours capturer les idées qui me passent par la tête. Toujours écrire les tâches que je dois faire. Pourquoi? Parce que je ne fais pas confiance à ma mémoire à court terme. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la science qui démontre que notre mémoire à court terme a une capacité de rétention d'informations très limitée. On parle d'à peu près 4 à 7 pièces d'informations que notre cerveau peut retenir en même temps. Donc, essayer, par exemple, de tout retenir dans ta tête, c'est vraiment prendre le risque que tu oublies, que tu perdes ces choses-là. Tu sais, si on pouvait chiffrer en valeur monétaire la valeur de toutes les bonnes idées qui ont été perdues parce que tu ne l'as pas écrit tout de suite, ça fait mal, tu sais. Je suis sûr que ça ferait mal. Des fois, tu as peut-être une idée de génie pour une décision que tu devais prendre, un projet sur lequel tu travailles, mais écoute, tu as perdu ton idée. C'est venu, tu étais en voiture, tu étais à la salle de sport, tu as eu un flash d'inspiration, tu ne l'as pas noté, puis finalement, l'idée n'est jamais revenue. Pour moi, c'est le genre, c'est une conséquence que je ne veux pas me permettre d'avoir. En tout cas, surtout pas dans mon type de métier où est-ce que finalement je suis rémunéré pour la créativité que j'amène dans mes formations, dans mes podcasts, tout ça. Donc, j'ai tellement besoin, pour ma part, d'être rigoureux dans ma capture de notes, d'idées et de tâches. Alors, c'était mon quatrième principe, toujours capturer mes idées et mes tâches dans un outil externe et ne jamais rien garder dans ma tête. Mon cinquième principe, celui-là, c'est dans les dernières années que j'ai mis une emphase encore plus importante là-dessus, c'est de toujours automatiser ou systématiser ce qui peut l'être. Okay? Donc, toujours automatiser ou systématiser ce qui peut l'être. Au début, quand j'ai commencé en tant qu'entrepreneur, ma charge de travail se gérait là, relativement bien. Tu sais, comme tout le monde, des fois, quand tu commences, tu as moins d'achalandage, ça se gère assez bien. C'est juste que dans les dernières années, quand j'ai vu ma charge de travail augmenter, à un certain stade, j'arrivais plus à tout faire moi-même. Ma seule option, c'était soit automatiser slash systématiser ou sinon embaucher du personnel. Ou sinon, ma troisième option, c'était de couper drastiquement des choses pour retrouver une charge de travail qui demeurait gérable. Mais avant, c'était pas vraiment un besoin. Tu sais, quand j'avais pas trop de travail, c'était correct. Il y avait des tâches que je faisais qui n'avaient pas vraiment de valeur ajoutée en soi. C'était répétitif, mais bon, vu que j'avais le temps, je continuais de les faire. Aujourd'hui, étant plus occupé, j'accorde tellement plus d'importance au fait de me remettre en question pour savoir, ben, la tâche que je fais, qui est, disons, récurrente, hein, surtout les tâches récurrentes, Est-ce qu'il n'y a pas moyen de l'automatiser, cette tâche-là, ou de la systématiser, c'est-à-dire de faire en sorte que le processus, tu sais, pour faire la tâche soit plus simple, plus rapide? Un exemple que je peux donner, des fois, bon, j'ai de la facturation qu'il faut que j'envoie, mais au lieu d'envoyer les factures au compte-gouttes tout au long de la semaine, au fur et à mesure, disons que je reçois des courriels, tu sais, pour me demander de faire les factures, est-ce que je peux pas comme améliorer le processus puis faire en sorte que une fois par semaine, le vendredi après-midi, je me réserve une heure et demie pour faire toute ma facturation. Et là, en bloc, paf, je vais faire du batching et je vais régler cette tâche-là de façon plus efficiente. Plutôt qu'à chaque jour d'en faire un petit peu, puis qu'au bout d'une semaine, quand on se met à calculer, ça m'aura pris beaucoup plus de temps. Alors que tu vois, c'est le genre d'affaire que maintenant, j'essaie de développer de plus en plus cette sensibilité dans ma façon de travailler. Dès que je vois des tâches que je fais souvent, les mêmes courriels que je réponds, le même genre de tâches de nature administrative qui revient régulièrement, j'essaie tout le temps de voir, de réfléchir, d'évaluer avec mes connaissances de est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Est-ce qu'on peut le simplifier? Systématiser ça? Est-ce qu'on peut l'automatiser? Aujourd'hui, avec l'automatisation, c'est exceptionnel tout ce qu'on peut faire. D'ailleurs, j'avais fait un podcast un peu plus tôt cette année avec Shubham Sharma, qui est un expert de l'automatisation. Et lui expliquait le nombre de choses qu'il a automatisées dans son quotidien. C'est assez impressionnant. Je suis pas du tout au niveau de Shubham, mais justement, suite à des discussions avec une personne comme lui, puis j'ai plein d'autres personnes dans mon entourage que je connais qui sont des maîtres de l'automatisation, ça me challenge, moi, personnellement, à me dire, ben écoute, faut que je prenne le temps de me former, il faut que je regarde comment fonctionnent les outils d'automatisation. Tu sais, j'ai vu des choses récemment, je suis tombé sur des vidéos YouTube où est-ce que des gens ont littéralement connecté leur boîte mail avec une intelligence artificielle comme ChatGPT. Ont connecté les deux outils, tu sais, avec justement un outil d'automatisation style Zapier ou Make, ces deux outils concurrents. Et certaines personnes réussissent comme à automatiser la gestion de leur courriel de cette manière-là. Tu vois, c'est le genre d'affaire que je me dis, OK, c'est à un autre niveau, là. Et je suis pas encore rendu là parfaitement dans mon cheminement, mais j'essaie d'y aller. Bien sûr, comme tout le monde, je suis occupé. Puis souvent, ce qui nous fait défaut, c'est qu'on manque de temps pour se former. On manque de temps aussi pour mettre la main à la pâte, parce que créer une automatisation, faut le faire, tu sais, c'est long au début à configurer tout ça. Sauf que derrière, ben, c'est une tâche que tu fais une fois. Puis si l'automatisation est bien configurée, après, ça peut être pour des années, littéralement. Donc, toi, moi, c'est vraiment un principe maintenant. C'est relativement nouveau, mais je le mets dans ma liste parce que j'essaie d'être intentionnel pour toujours automatiser ou systématiser ce qui peut l'être. Et je dis ce qui peut l'être parce que, bien sûr, il y a des choses qui ne peuvent pas être automatisées ou systématisées. Dans ce contexte-ci, il n'y a rien qu'on puisse faire. Mais si je peux le faire, je vais essayer de le faire le plus possible. Mon sixième principe auquel j'essaie de ne jamais déroger, c'est de toujours écouter mes signaux de stress et de fatigue. Et ça aussi, je vous dirais que c'est relativement nouveau ces dernières années. J'ai encore été sensibilisé beaucoup plus alors que j'ai beaucoup travaillé sur la création de mon cours sur la gestion d'énergie. Donc, dans le processus de création de cette formation-là, déjà, j'ai travaillé énormément, mais aussi, c'est que j'ai été amené à plonger dans l'étude, tu sais, de comment fonctionne l'énergie, la gestion du stress, tout ça. Et ça m'a appris plein de choses aussi sur moi-même. Étant quelqu'un, naturellement, dans ma personnalité, j'ai toujours été axé sur la tâche. Donc, j'ai aucune difficulté, moi, à enchaîner les heures de travail. J'ai aucune difficulté, surtout que j'aime mon métier. Donc, tu sais, je travaille à mon compte, donc le travail que je fais finalement, je le fais pas pour quelqu'un d'autre, je le fais pour moi. Alors, j'ai une motivation énorme, j'aime ce que je fais. Pour moi, travailler, c'est pas une contrainte, c'est limite quasiment un loisir. J'aime beaucoup ce que je fais, ça me valorise. J'aime de créer, j'aime de voir l'impact que mon travail a sur vous, les auditeurs, sur les gens qui suivent mes formations. Mais le danger là-dedans, c'est que j'ai souvent eu tendance à me pousser un petit peu trop puis à ne pas écouter assez mes signaux de stress et de fatigue. Tu sais, notre corps nous parle. Finalement, quand tu es stressé, tu peux, si tu développes une conscience de toi, tu es capable de voir les symptômes que tu as. Tu sais, si tu commences à être énervé, à crier après tout le monde, à avoir de la difficulté à t'endormir le soir, ben c'est ton corps qui est en train de t'envoyer des symptômes comme quoi, hey, tu as peut-être un stress qui est trop élevé et là, il faut que tu fasses quelque chose, il faut que tu ralentisses, il faut que tu te calmes. Mais des fois, on est tellement pris dans le train-train quotidien, tellement le nez dans le guidon à faire nos tâches qu'on n'écoute plus nos signaux de stress et de fatigue. Et des fois, tu peux faire ça pendant des mois, pendant des années, jusqu'au jour où tu frappes un mur, tu t'épuises parce que finalement, tu t'es pas assez arrêté, tu as tout le temps composé avec un stress élevé, un niveau de fatigue, tu n'as pas eu vraiment de moment de récupération et après ça, tu es vidé. Et dans le pire des cas, c'est un épuisement professionnel et un burn-out. Et heureusement, dans ma vie, je me suis pas rendu là, mais il y a eu des périodes extrêmement chargées dans ma vie où est-ce que des fois, avec le recul, je me dis, tu vois, dans cette saison-là, il y a 2 ans, il y a 3 ans, je me suis pas écouté. Puis heureusement que j'ai réussi à passer à travers et que tout va bien aujourd'hui. Mais maintenant, j'essaie d'écouter mes symptômes. Qu'est-ce que mon corps me dit? Est-ce que je suis stressé? Est-ce que je suis fatigué? Parce que des fois, comme j'ai dit déjà dans d'autres épisodes, l'activité la plus productive que je puisse faire en ce moment, c'est peut-être de me reposer. Tu vois, c'est peut-être de prendre un vrai de vrai week-end. C'est peut-être de finir 1 heure plus tôt aujourd'hui parce que là, mentalement, je suis complètement vidé, lessivé, j'arrive même plus à me concentrer. Eh bien, des fois, c'est juste de donner à ton corps ce qui te réclame, c'est-à-dire un moment de recul et un moment de repos. Alors moi, aujourd'hui, je suis plus que jamais conscient de ça. Puis je sais que la productivité, c'est une partie de longue durée. T'sais, c'est comme un marathon. C'est pas un sprint. C'est pas je vais être productif là seulement ce mois-ci, cette semaine. C'est je vais être productif pour le restant de ma vie. Et si je veux être productif pour le restant de ma vie, il faut que j'entretienne ma machine, il faut que j'écoute mon corps, puis il faut que je fasse attention à ne pas me pousser à l'épuisement. Donc ça, c'était mon principe numéro 6. Toujours écouter mes signaux de stress et de fatigue. Et mon 7e et dernier principe, qui lui, c'est un grand classique que j'applique depuis des années, ne jamais commencer ma journée ni ma semaine sans l'avoir planifié au préalable. Pour moi, la planification est indispensable. Ça nous permet de se mettre dans le siège du conducteur, hein, d'être celui qui décide où on va cette semaine, qu'est-ce qu'on fait, quels sont les projets que je vais faire, quelles sont mes vraies priorités, plutôt que d'être dans le siège passager, où est-ce que là, c'est toi qui te fais comme balloter et conduire un peu partout. Mais bien souvent, là où les gens te conduisent, ce n'est pas en direction de tes véritables objectifs et priorités. Puis moi, ce principe-là, je l'ai découvert et je l'ai adopté dans les tout débuts de ma carrière, heureusement, parce que je me souviens que les premiers mois de ma carrière, quand je débutais mes semaines sans avoir planifié, mes journées sans avoir planifié, ça allait dans tous les sens. Et j'expérimentais justement beaucoup de stress, une grosse charge de travail. Puis j'avais tout le temps la frustration de me dire « Mais coudonc, je suis jamais en contrôle de mes journées, ça se passe jamais comme je voulais faire. Je sais ce que je veux faire, mais j'arrive pas à le faire parce que j'ai pas vraiment planifié tout ça, je me suis pas bien structuré. » Et aujourd'hui, depuis maintenant des années, je sais même plus ça fait combien de temps, mais il n'y a pas une journée que je commence sans ne l'avoir planifié au préalable. Exception faite de mes jours de repos, mes vacances et toutes ces choses-là, où là, on met de côté tous les agendas et les trucs de planification, on met ça de côté lorsqu'on veut décrocher. Mais quand il est question d'une journée de travail, moi, j'essaie tout le temps de planifier intentionnellement et stratégiquement mon temps. Et surtout, je veux veiller à ce que chaque jour et chaque semaine, je suis en alignement avec mes priorités et mes objectifs. Donc, si ce mois-ci, mon objectif est d'atteindre ceci, eh bien, je me pose toujours la question, comment est-ce que cette semaine, je vais pouvoir faire des pas en direction de cet objectif? Et comment est-ce que aujourd'hui, tu sais, quelle action je dois faire aujourd'hui pour avancer en direction de l'objectif que je veux atteindre ce mois-ci? Alors moi, je fonctionne vraiment avec une approche stratégique de ma gestion de temps. Je planifie tout le temps. Ce qui peut être planifié, bien sûr, hein, on s'entend qu'il y a des imprévus dans la vie puis on ne peut jamais planifier à 100%. Mais je préfère, moi, me mettre dans la position du conducteur plutôt que du passager. C'est pourquoi c'est mon 7e et dernier principe de productivité auquel je ne déroge jamais. Donc, ne jamais commencer mes journées et mes semaines sans l'avoir planifié au préalable. Donc, écoutez, j'en ai d'autres principes de productivité, mais je vais m'arrêter pour aujourd'hui parce que ça fait déjà un bon petit moment que je vous parle. Je serais curieux de savoir, vous, avez-vous des principes de productivité, tu sais, des genres de règles de vie, que c'est vraiment des choses que vous vous dites, moi, là, je veux vivre d'après ces principes-là parce que c'est ce qui me permet d'être efficace puis de me protéger de l'épuisement, me protéger de la dispersion, me permettre de rester vraiment focalisé sur mes priorités, sur mes objectifs. Je serais vraiment curieux de savoir si vous avez des principes. Vous pouvez m'écrire ou commenter directement sur la page web de l'épisode d'aujourd'hui. On est à l'épisode 218, donc vous allez au mathieuderoche.com/218. Laissez un message à cet endroit-là. Sinon, contactez-moi sur Instagram ou par courriel. Je vous remercie pour votre écoute. N'oubliez pas d'aller télécharger l'extrait gratuit de la formation Maximise ton énergie. Vous allez avoir le droit à 3 vidéos complète de la formation. Je vous donne plein de valeurs et de conseils là-dedans au mathieuderoche.com/extrait-énergie. J'espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui. Si c'est le cas, pourquoi ne pas le partager à quelqu'un autour de vous? On s'arrête pour aujourd'hui et on se revoit très bientôt sur Productif au quotidien. Salut tout le monde, prenez bien soin de vous.